Les forces de l'ordre ont dû faire face à des casseurs de la mouvance Black Bloc. 1200 personnes cagoulées, masquées.
Ils attaquent un ancien poste de douane aux alentours de 14h. Incendient l'office de tourisme situé à l'entrée du territoire.
À chaque fois, ils se placent en tête de cortège, aux côtés de groupes virulents, parfois violents, qui n'hésitent pas à s'attaquer aux banques ou aux forces de l'ordre.
Mais on le sentait, il y avait de l'électricité dans l'air dès le départ.
C'est la première fois qu'on voit ça. On n'a même pas pu avancer, ça a tapé dessus.
Cette violence venant de ces Black Blocs est inadmissible.
Cette violence, on la connaît, on est né avec. On a banalisé la violence.
On est dans un jeu de juste mesure. Entre la violence et la légitimité de l'usage de cette violence.
Face à la quantité de vidéos et de témoignages de blessés lors des manifestations de Gilets jaunes, le journaliste David Dufresne avait décidé de recenser les violences policières qu'il tweetait régulièrement. Il a réuni ces scènes en les alternant avec des commentaires dans un film sorti en salle mercredi qui a pour titre « Un pays qui se tient sage ». Un film dont il est venu, David Dufresne, parler au matin, le jour de la sortie. Et dans une enquête publiée hier dans La Croix l'Hebdo, le journaliste Michael Kor, quant à lui, se penche sur une autre forme de violence, celle de manifestants. Il s'y interroge sur le passage à l'acte et sur le choix de l'affrontement physique, parfois, qui répond, mais pas toujours, à la violence des forces de l'ordre. Et c'est le choix de notre enquête du jour. Bonjour Michael Kor.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes en charge des questions police-justice au journal La Croix. On a entendu un montage de son réalisé par notre réalisateur Jean-Christophe Francis. Montage fait à la fois d'extraits de la bande-annonce du film de David Dufresne et de sons de reportage. Est-ce que ce que vous avez entendu là correspond à ce que vous avez compris avec votre enquête ?
Alors oui, moi j'ai retenu deux choses de ce qu'on a écouté. Déjà cet élément de langage médiatique, casseur de la mouvance Black Bloc. Ce qui est en fait un élément de langage assez pratique, parce qu'on doit toujours, nous journalistes, écrire, parler, on a besoin de mots. En fait, ça ne veut strictement rien dire, ça donne l'idée aux lecteurs, aux auditeurs, qu'on est face à un groupe structuré dans lequel il y aurait une sorte de commandement, alors que le Black Bloc, en fait, c'est simplement un mode d'action, c'est-à-dire c'est des gens qui viennent de tous horizons, certains qui sont des manifestants de longue date, d'autres des primo-manifestants qui, à un moment donné, décident de se mettre en noir, de se masquer le visage et de passer une action plus directe. Et d'ailleurs, le signe de ça, et c'est la deuxième chose que je retiens de ce que vous nous avez fait entendre, c'est le « aou, aou, aou », ce chant-là, qui est le chant caractéristique, non pas des casseurs de la mouvance Black Bloc, mais des Gilets jaunes, un chant tiré du film 300.
Je pensais que vous continueriez. Donc, c'est donc pour mettre à bas un certain nombre d'idées reçues, Michael Kor, que vous êtes allé mener cette enquête. Il faut quand même préciser qu'elle fait suite à une première qui a paru il y a un an sur les violences policières. Donc, c'est quand même aussi une sorte de suite logique.
Voilà, en fait, l'année dernière, donc un an après le, enfin un petit peu avant évidemment, mais un an après le début du mouvement des Gilets jaunes, suite aussi aux nombreux blessés, on s'est posé la question à la rédaction de La Croix des violences policières. Et en fait, on a eu envie de les traiter du point de vue des policiers eux-mêmes, non pas pour qu'ils nous disent il n'y a pas de violence policière, ça c'était un petit peu l'élément de langage du gouvernement à ce moment-là, mais pour comprendre un petit peu pourquoi à certains moments ils pouvaient devenir violents. Donc on a essayé de se mettre dans leur tête et on a demandé à des policiers non pas de nous parler de la violence policière, mais de nous parler de leur violence à eux. Donc d'essayer d'investiguer très précisément sur un acte violent d'un policier qui nous en parle. Et c'est un petit peu la même chose qu'on a voulu faire un an plus tard, donc, auprès de ces manifestants qui passent à l'action directe violente, pas comme un droit de réponse, l'enjeu il est pas là, mais un petit peu comme une sorte d'effet miroir, voilà, pour s'intéresser non pas à ces manifestants violents qu'on essentialiserait en disant voilà, il y aurait d'un côté les bons manifestants et puis ces casseurs ultra-violents qui viendraient les infiltrer. Non, au contraire, pour montrer, enfin pas pour montrer, mais pour les raconter les histoires de ces manifestants qui rentrent dans l'action violente, parce que c'est souvent des parcours comme ça de militants, un peu chaotiques, pas tout à fait stables, et puis aussi dans ce papier, eh bien des militants qui sortent de cette action directe violente. Et puis évidemment des raisons qui font qu'ils y entrent et qu'ils en sortent.
C'est pas toujours facile, Michael Kor, de rencontrer des policiers, d'obtenir des paroles, d'obtenir leur confiance. Est-ce que c'est plus facile de ce point de vue-là avec les manifestants ou finalement c'est aussi difficile ?
Bien, en fait, les policiers qui nous parlent de leurs actions violentes, ils prennent un risque, d'une part parce qu'ils n'ont pas le droit de parler en tant que fonctionnaires, tout devrait passer par la communication officielle, et puis aussi parce que tout simplement, ce dont on parle peut leur valoir, eh bien des condamnations au niveau pénal ou alors des sanctions administratives. Côté manifestants, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des sanctions, je dirais, sociales, c'est-à-dire que certaines personnes dont on parle proches du bloc ou alors tout simplement qui sont des actions très violentes, eh bien sont enseignants, doctorants dans des grandes universités, cuisiniers dans des restaurants UP, voilà, ils ont un entourage qui ne, notamment professionnel, qui ne sait pas exactement quel est leur engagement. Ça, c'est la première chose. Et puis, tout simplement, certaines choses dont ils parlent sont illégales. Quand on parle de violence sur les forces de l'ordre, ça peut valoir des condamnations importantes. Donc, ça a été plus concrètement, je dirais pas difficile de les approcher. Je dirais que ça a été long, c'est-à-dire qu'il a fallu envoyer beaucoup de demandes, notamment par les réseaux sociaux, puisqu'il y a de plus en plus de forces de l'ordre qui sont sur les réseaux sociaux. Ça, c'était pour le volet police. Par contre, les manifestants, notamment ceux qui sont dans les franges que l'on dit d'ultra-gauche, donc communistes révolutionnaires, autonomes, etc., sont assez peu présents en ligne et font extrêmement important aux traces qu'ils laissent. Mais donc j'ai pu en rencontrer quelques-uns, et puis après, évidemment, quand on en rencontre un, eh bien on peut en rencontrer un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Enfin, les enquêtes se font souvent comme ça.
Combien de temps avez-vous passé avec chacun d'entre eux?
Alors, j'ai mis 2 mois et demi à faire cette enquête, et les entretiens que j'ai faits étaient relativement longs. C'est allé jusqu'à des entretiens de 4-5 heures. Certaines personnes aussi, il a fallu les rencontrer plusieurs fois, parce que, en fait, c'est une chose de rencontrer, par exemple, un manifestant qui va accepter de me parler de la violence. Alors, c'est très facile de rencontrer un manifestant qui va me parler de la violence des forces de l'ordre. De la même manière, c'était la même chose pour les policiers. Déjà, parler de sa violence à soi et ensuite de manière très précise, c'est évidemment plus compliqué. Ça demande aussi une certaine confiance. Et je trouve qu'en tant que journaliste, bah, il faut accepter que cette confiance, elle prenne un peu de temps. C'est pas évidemment quelque chose que les gens sont parfois prêts à raconter tout de suite. Ça demande de prendre... Oui, parfois plusieurs heures.
Alors, ceux qui viennent taper du flic, pour le dire crûment, ceux-là, vous ne les avez pas rencontrés, les plus durs d'entre eux, disons. Vous avez vu, si on peut faire schématiquement les choses, les résumer de cette façon-là, ceux qui ont eu un coup de sang, comme Enzo, alors tous les noms, les prénoms, bien sûr, ont été changés, ceux qui répondent à la violence policière et qui estiment qu'ils sont dans l'autodéfense, par exemple. Est-ce que vous êtes aujourd'hui capable, ou est-ce que vous avez eu à cœur de faire une sorte de typologie des causes des passages à l'acte, Michael Kor?
Alors, je répondrai en deux temps. Alors, déjà, je ne sais pas si c'est les plus violents ou tout ça, mais l'article commence quand même avec Eric qui vient mettre un coup de pied direct en pleine course à un policier pendant qu'un ami à lui l'étrangle et l'amène au sol. Donc on est quand même, l'article commence quand même sur une scène extrêmement violente. Et Eric fait partie d'un petit groupe qui n'est pas en noir. D'ailleurs, c'est intéressant qu'il s'habille en bleu et qu'il s'habille en vert.
Oui, parce que vous dites, on peut être violent tout en étant habillé en vert, en bleu. On n'est pas nécessairement
en noir.
Voilà,
parce que justement, ils veulent pas être assimilés au bloc. Mais eux, par exemple, ils retirent des personnes qui sont en train de se faire interpeller par les policiers. Donc une personne est en train de se faire arrêter. Eux, ils arrivent et ils tapent sur les policiers pour extraire la personne. Donc là, on est quand même dans de l'affrontement extrêmement direct. Alors, pour répondre à votre question de la typologie, je dirais non, tout simplement parce que j'ai pas fait une étude quantitative. S'il fallait rapprocher ce que j'ai fait de la sociologie, mais ça n'en est pas, ça reste c'est du journalisme, ça serait vraiment du qualitatif. C'est-à-dire que moi, je suis essayé de rentrer dans des histoires, faire raconter à des gens pour voir un peu quels étaient les ressorts psychologiques, politiques. Ce que je peux dire, c'est que on peut pas totalement dire d'un côté il y a les militants d'ultra-gauche extrêmement politisés et de l'autre les gens qui ont eu un coup de sang. Parce que même par exemple dans le cas d'Enzo qui est un gilet jaune qui a pris 8 mois de prison ferme pour avoir mis un coup de poing, un crochet du droit dans le visage d'un gendarme, Même quand on parle avec lui, même si la dimension psychologique, là, la fatigue, etc., il la met beaucoup en avant, il y a quand même une dimension politique à son geste. Il veut pas totalement le dépolitiser. Quand on lui dit oui, t'as vrillé, en fait, non, c'est pas exactement ça pour lui. Le fait que le mouvement social des Gilets jaunes auquel il appartenait s'épuisait dans le temps, le fait que les gendarmes ne voulaient pas parler alors que lui, c'était un mouvement social pour se faire entendre, c'est aussi important pour lui. Et du côté des Black Blocs, il y a par exemple le témoignage d'une jeune femme, ce qui est assez intéressant parce que c'est une femme qui militait dans le cortège syndical, qui a commencé à s'approcher de plus en plus de la première ligne, à se revêtir de manière de plus en plus sombre, etc. Et en fait, qui est d'abord rentrée dans l'action, dans une action plus directe et plus violente, et qui s'est politisée ensuite. Voilà, donc on peut pas, de mon point de vue, faire des grandes typologies. En fait, mon article est plutôt un article pour casser les typologies un petit peu caricaturales qu'on peut avoir sur cette mouvance.
Montrer la diversité des causes, la diversité des profils, et effectivement battre en brèche un certain nombre d'idées reçues. Vous accordez, plutôt un historien vous a accordé une interview à la fin de cette enquête. Pourquoi l'avoir séparée de l'enquête, Michael Kor?
Moi, j'ai voulu que dans l'enquête en elle-même, en fait, il n'y ait que des manifestants qui parlent, de sorte, et d'ailleurs des manifestants qui parlent d'eux et de leur violence, de sorte que, entre guillemets, les acteurs soient commentés par les acteurs eux-mêmes, et qu'ils soient posés en spécialistes de leur propre action. Voilà. Je voulais pas faire un article que j'ai l'impression d'avoir déjà beaucoup trop lu, où on a d'un côté des manifestants qui soutiennent la violence en expliquant que c'est une réponse à la violence du gouvernement, et puis de l'autre des forces de l'ordre ou des syndicalistes de la police qui disent l'inverse. Enfin, j'avais l'impression qu'il y a une sorte de théâtre un petit peu dans ce genre d'article, et je voulais un petit peu en sortir. Et puis je cherchais réellement à mieux comprendre cette mouvance, parce que tout à l'heure vous me posiez la question des typologies, mais si vous allez regarder en sociologie ou en anthropologie sociale, en France on a très peu de bonnes études sur ces mouvances, notamment la mouvance Black Bloc ou même les mouvances autonomes, parce qu'elles sont très compliquées à étudier.
Et ça fait deux fois que vous parlez de sociologie, il faut quand même préciser, et on en terminera par cette petite réflexion, Michael Kor, que vous avez une formation de sociologue, ce qui se ressent en effet dans cette enquête qui a paru donc hier dans le La Croix, l'Hebdo, violence, comment des manifestants passent à l'acte. Merci beaucoup Michael Kor d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Caroline Sourier nous a écouté avec attention. Je vous remercie beaucoup, Caroline Sourier, d'être restée avec nous jusqu'à 8h. On se retrouve après le journal de 8h, présenté ce matin par Marc Potvin.